Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alors nous en sommes dans l'Apocalypse.
Et
nous étudions verset après verset. Donc nous avançons petit à petit. Mon objectif, c'est vraiment de faire une étude, ce qu'on appelle la plus exhaustive, c'est-à-dire la plus complète possible. De telle façon que vraiment vous puissiez savoir ce qu'il y a dans ce merveilleux livre. Parce que l'Apocalypse est un livre absolument extraordinaire. Nous avons vu que ça veut dire révélation. Le mot Apocalypse en français veut dire révélation. Et souvent d'ailleurs c'est bien traduit dans pas mal de langues. Par exemple en anglais c'est Revelation. En Kirundi apparemment c'est aussi le mot révélation. Et nous avons vu au chapitre 1 comment Jean se présente au départ. On a vu comment il a une révélation extraordinaire de Jésus, Jésus glorifié. Et puis, à la fin du premier chapitre, nous avons remarqué que Jésus va adresser un message à cette église. Et en fait, ces sept églises, nous savons où elles sont situées. Elles étaient situées en Turquie.
Actuelle.
Donc dans l'ouest de la Turquie.
Et
nous avons remarqué qu'en fait c'est vous avez la Grèce à gauche hein, et vous avez la Turquie au milieu. Et en fait ces églises étaient proches les unes des autres. Et quand on suit le chemin que la Bible nous donne à propos des messages aux sept églises.
Et
bien voilà ce que ça fait ici, c'est-à-dire ça fait une sorte de chemin qui monte et qui descend. Alors nous avons regardé d'abord la première église, nous avons vu Éphèse. Et nous avons vu que c'est une église qui était très bien enseignée. Et d'ailleurs en fait c'est l'église, la seule église parmi les sept églises dont nous avons finalement eh bien, la naissance dans les Actes des Apôtres. Donc Éphèse, c'est, nous le savons dans Actes 19, Paul qui va fonder cette église. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, dans Actes 19, donc nous avons l'histoire de la naissance de l'église d'Éphèse, qui se situe environ en 54 après Jésus-Christ. Et cette église avait environ une quarantaine d'années lorsque Jean reçoit donc une révélation à propos de la condition de cette église. Donc, une quarantaine d'années, 40 ans d'existence. Donc c'est intéressant parce qu'on peut comparer un peu les deux choses. C'est-à-dire la naissance, voir comment le feu de Dieu était dans cette église. Voir aussi comment elle a tourné 40 ans plus tard. Et en fait, on s'aperçoit que ben, cette église d'Éphèse était encore bien stable, bien solide. Même s'il y avait des travaux. Donc on voit que Jésus en fait bien, dit des points forts sur cette église comme d'ailleurs dans la plupart des églises, mais aussi bien, il va annoncer des faiblesses, Et c'est assez intéressant, donc c'est pour ça que nous étudions le message aux sept
églises.
On voit que Éphèse portait des fruits. C'était une église très bien fondée sur la parole, qui connaissait profondément le Seigneur. Nous avons vu aussi qu'elle était capable de discerner les vrais ministères des faux ministères, parce que ça c'est un gros problème que l'on voit malheureusement, surtout quand il y a des mouvements de réveil où il y a des moments où il y a des vagues de l'Esprit de Dieu. Il y a très souvent du désordre concernant les ministères. Les gens se mettent des titres sans avoir d'onction. Et alors finalement on se retrouve avec toutes sortes de choses qui ne sont plus scripturaires au bout d'un temps. Par contre Jésus leur reproche de quoi ? Il reproche à cette église d'avoir abandonné son premier amour. C'est-à-dire c'est une église qui doit évangéliser. Une église, c'est vrai, qui est bénie, mais quand on est béni, au bout d'un moment, on a tendance à se replier sur nous-mêmes. En fait, quand on est béni, il ne faut jamais oublier qu'il y a des gens qui se meurent sans Christ dehors. Et ça,
il ne
faut jamais l'oublier. Nous devons prêcher vraiment comment Dieu, nous avons un héritage en Christ, comment Dieu nous bénit, etc. Ça, c'est très bien. Mais il faut faire toujours attention à une chose. Il faut garder un message d'évangélisation. Il faut produire les âmes perdues qui viennent à Jésus. Quand une église ne commence à plus porter de fruits dans l'évangélisation, ça commence à être dangereux. Donc, il doit toujours y avoir des efforts d'évangélisation. On doit avoir régulièrement des gens qui se donnent à
Christ.
Ensuite, nous avions vu l'église de Smyrne. Nous avons vu que Smyrne, c'est tout à fait le type d'église qui ne vit pas à la lumière de son héritage. Donc en fait, c'est des gens qui sont gentils, qui aiment le Seigneur. Mais le problème, c'est qu'elle manque d'enseignement. Donc c'est une église qui est dominée. Et nous avons vu qu'il y a beaucoup d'églises comme cela.
Où
en fait, les gens, bon, se donnent à Jésus. Donc reçoivent le Seigneur. Mais le problème, c'est que les gens ne comprennent pas qu'ils doivent dominer. Par la foi, par la puissance de Dieu. Et ne pas se laisser dominer. Ni par le monde, ni par l'ennemi. Et vraiment, cette église avait ce problème. Et Jésus seulement ne peut que la réconforter. Sachant qu'il y aurait un grand, grand travail de fondation et de profondeur au niveau de l'enseignement de la parole. Alors, ensuite, nous avons vu donc l'église de
Pergame.
Et là, l'église de Pergame, il y avait un mélange du monde spirituel, les manifestations de Dieu et celles de Satan. Et là, je vous ai montré que parfois, malheureusement, il y a certaines églises où il y a une confusion et où il y a un manque, je dirais, encore d'enseignement, de discernement spirituel aussi, et qui se font séduire par des gens qui viennent, qui font des signes, des prodiges et des miracles, mais dont l'origine n'est pas divine. Et là, il faut vraiment faire attention. Et nous avons vu cette histoire de Nicolaïte dont Jésus parle et leur reproche justement à propos des Nicolaïtes, la doctrine des
Nicolaïtes.
Et je vous ai montré que c'était des histoires de la doctrine de Balaam et de Balak. Et en fait, on s'est aperçu que bien, c'était ni plus ni moins utiliser un certain nombre de dons qu'on va pervertir.
Qu'on
va utiliser avec, une mauvaise façon, d'une mauvaise façon. On utilise des dons divins pour une mauvaise façon, de mauvais motifs. des motifs dits impurs.
Intumbero
zihumana. De l'argent, de la gloire humaine, du pouvoir vis-à-vis sur les gens.
Kwironderera amafaranga kukandamiza abantu ngo bagire kububasha ibintu mwe n'ivyo bitandukanye.
Alors, ensuite nous avons vu la quatrième église qui était Thyatira. Et Thyatira, on voit qu'il y a une femme qui se dit prophétesse. Et en fait, bien, qui donne un certain nombre de révélations, mais ce sont des fausses révélations. Et ces fausses révélations amènent de la confusion et amènent de la séduction parmi les serviteurs de Dieu. Et Jésus prévient très clairement cette église de ne pas se laisser avoir et de ne pas laisser cette femme qui est une fausse prophétesse exercer le ministère au sein de l'église.
Kandi ntibagumye bare ku uwo mugore ngo abandanye akora igikorwa cy'Imana icitwa ikoko cy'Imana muri iryo shengero kandi atari umukozi w'Imana.
Et je vous ai montré que malheureusement parfois c'est ce qui se passe, il y a des gens qui arrivent dans des églises.
Naramenetse ko ivyo navyo bihora biba aho sanga hari abantu bashika mu mashengero.
Et je vous assure, j'entends des sacrées histoires.
Kandi ndumva ibintu byinshi bigenda biraba gutyo.
Des gens qui arrivent dans des églises, qui se disent prophètes, qui se disent toutes sortes de trucs.
Abantu bagashika mu mashengero bakita bavugishwa, bakita amazina.
Il y a un pasteur qui a travaillé un certain temps.
Ugasanga ari umupastor amazi igihe akorera aho hantu.
Et il se fait détruire son église.
Ugasanga ishengero ry'uwo muntu araje ararisambuye.
Par des gens qui sont mal intentionnés.
Bigasambugwa n'abantu bafise intumbero zitari zo.
Des choses extrêmement graves qui se passent par fausses révélations, bien sûr. Et souvent, ils s'adressent aux serviteurs de Dieu, qui malheureusement n'ont pas forcément de la maturité du discernement, donc qui se laissent très facilement avoir,
ou
entre guillemets, séduire.
Arahenzwe navyo.
Ce qui amène après
maze bigaca
biza des troubles dans l'église et des églises qui se coupent en deux, en trois, etc., ou qui ferment.
Kuzazanirwa mwishengera amashengera akigaburamwe inshuro zibiri zitatu canke kugara.
Et là justement dans cette église de Thyatira, Jésus prévenait, il disait attention à cette femme.
Muri rishengero gitwatira rero Yesu aravuga ati uragaba kuri uyo mugore.
Alors nous avions commencé à voir le chapitre 3 et nous avions commencé à voir l'église de Sardes.
Twatangiye rero kuraba igice ca gatatu twatangiye kwiga ku ishengero gy'Sardi naryo.
Et c'est sardine. C'est sardine. C'est Sardes. Alors en fait, Sardes, on voit que c'est une église. D'ailleurs, on va relire à partir du premier verset parce qu'on va continuer aujourd'hui.
Alors, tu as la kumulongo ambere kuichete chandi kuishengero di Sardes.
Où Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu, les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Merci. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Verset 2. Sois vigilant, c'est-à-dire fais attention, ne pas être trop molle, et affermi, c'est-à-dire prends des résolutions, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, c'est-à-dire matures devant mon Dieu. Verset 3, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Verset 4, cependant, tu as à sorte quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Verset 5, s'il vous plaît. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Nous allons étudier cela aujourd'hui. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Verset 6, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, nous avons remarqué que dans cette église, eh bien, il y a un certain nombre de choses que nous pouvons remarquer. Et là, nous avons vu qu'il y a un mélange en fait de vrais chrétiens et de faux chrétiens. Et Jésus est très clair là-dessus. Cette église est quasiment morte spirituellement. Et en fait, c'est clair qu'à partir du moment où il n'y a pas d'onction dans l'église, ou très peu, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de faux chrétiens qui entrent dans les églises. C'est-à-dire des gens qui trouvent que c'est très sympathique d'être chrétien, mais ils ne portent pas les fruits. C'est des gens qui vous diront, je me suis fait baptiser, je vais prier dans cette église, j'aime bien, le pasteur prêche bien, enseigne bien, bien. La musique, c'est très sympathique. Ils trouvent qu'on prie bien. Par contre, quand vous leur demandez un témoignage personnel,
il n'y
a rien. Ils vous diront qu'ils prient. Ils prient qu'ils ont vu Dieu faire ça et ça dans leur vie. Mais quand vous leur demandez le témoignage de leur salut, quel est le jour où vraiment ta vie a été touchée par le Seigneur et transformée, le jour où tu es venu à lui, où tu t'es reconnu comme pécheur, que c'était très clair que là, si tu partais maintenant, tu mourrais physiquement, tu allais en enfer. Ce jour où
tu
as crié au Seigneur, je suis perdu Seigneur, pardon pour mes péchés, je te reçois comme mon sauveur personnel, sauve-moi Seigneur. Et qu'il s'est passé un miracle. Ces gens-là sont incapables de vous le dire. Ce sont les faux chrétiens. Les bons adhérents au christianisme, mais qui courent en enfer. Parce que la Bible, nous le savons, parle de la nouvelle naissance. Du plus grand des miracles. Qui transforme radicalement la vie des êtres humains. Dieu ne cherche pas des adhérents. Dieu est dans le business de la transformation des vies, d'amener un pécheur perdu qui appartient à Satan et qui est radicalement transformé par la vie divine, par la puissance du sang de Jésus. Et ça, c'est notre message, frères et sœurs, la fondation du message de l'évangile. Et cette église avait perdu cela. C'est vrai, apparemment ils prêchaient, mais Jésus voit que les œuvres ne sont pas parfaites, réelles en quelque sorte. Et il leur dit bien que de toute façon, attention, parce que je vais venir. Si je venais maintenant enlever l'église,
ben,
Jésus dit clairement, il y a un bon nombre d'entre vous qui resteraient là. Voyez, donc Jésus les prévient clairement. Et en fait, nous avons vu que Jacques, par exemple, dans Jacques chapitre 2, reprochait aux gens de faire semblant d'être chrétiens. Et c'est clair que nous avons vu quand nous lisons l'épître de Jacques, Jacques est fâché. Il dit, mais toi tu dis que tu as la foi. Ça veut dire que tu es un croyant. Tu dis que tu es un chrétien. Montre-moi les œuvres, c'est-à-dire montre-moi les fruits. En fait, Jacques, ni plus ni moins, était en train de paraphraser ce que Jésus avait déclaré dans l'évangile. Le bon arbre porte quoi? De bons fruits. Le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Et Jésus dira, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Et un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits.
Ce
n'est pas possible. C'est de la nature de l'arbre. On va dépendre les fruits. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de dire ici.
Il dit,
ok, vous êtes là, c'est très bien, vous vous dites m'appartenir. Le problème, c'est qu'il y a des faux chrétiens là-dedans. Jacques dénonçait ça aussi. Au verset 4, il va le dire, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ainsi, le vainqueur se revêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. »
Kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzokwatura izina ryiwe mbere ya data n'imbere y'abamareka biwe.
Alors là, Jésus va nous parler de ceux qui vont vaincre.
Tubwira ngo unesha.
Dans un certain sens, rappelez-vous, plusieurs fois Jésus parle au vainqueur, au vainqueur je donnerai, au vainqueur, au vainqueur.
Muri iki gitabo Yesu aragaruka kenshi avuga ngo unesha nzomuha, ngo unesha nzomuha.
Mais ici, on remarque qu'il y a cet aspect, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Là, Jésus va nous parler à propos du salut. Et il y a une différence entre perdre sa récompense et être effacé du livre de vie. Il faut vraiment faire attention. En fait, quand Jésus dit celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va marcher dans ses convictions et sa foi en Christ jusqu'au bout. Celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui va marcher dans ses convictions et sa foi en Christ sans renier le Seigneur. Alors il y a beaucoup de discussions à propos de gens que nous observons. Voilà, il y a des gens, par exemple, on leur annonce l'évangile. Et puis, on a l'impression vraiment qu'ils se repentent sincèrement. Ils acceptent Jésus. Et on les voit, ils commencent vraiment, on a l'impression qu'ils changent vraiment. Et puis, il y en a, ils continuent vraiment bien avec le Seigneur. Mais ce qui souvent nous interpelle, c'est de voir des gens qui ont l'air d'avoir marché avec le Seigneur un temps et qui retournent dans le monde. Hein, on a tous été choqués par ça. Certains même, vous avez été choqués par vous-même parce que vous avez fait ça. Vous aviez commencé avec le Seigneur et vous avez rétrogradé. Donc là, on va expliquer plusieurs choses. Parce que là, Jésus va fort. Il dit, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Nous allons parler de ce livre de vie. Parce que la Bible nous en parle. À plusieurs reprises. Mais d'abord, j'aimerais que vous compreniez plusieurs choses. Jésus s'adresse à des gens, à une église. Et une partie de cette église n'est pas sauvée. C'est très clair dans ce que nous venons de voir. Des gens qui font semblant. Des adhérents. Mais les adhérents vont en enfer. Les adhérents, quand ils meurent physiquement, ils partent en enfer. Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont des fois très gentils, très sympathiques, très sympathisants. Mais je vous dis, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas de témoignage personnel. Jésus n'habite pas en eux 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 365 jours par an. Au fond d'eux-mêmes, ils n'ont pas la paix avec Dieu. Ils aiment bien. Comme par exemple au Burundi. Tout bon Burundais qui se respecte va prier le dimanche matin. C'est vieux. Parce que c'est culturel. Aux États-Unis, comme on vivait là-bas, les gens disaient, surtout dans le sud des États-Unis, les gens étaient très protestants. Parce que le dimanche, on allait à l'église protestante. Dans certains endroits où nous avons habité, c'était très clair. Et on me disait, mais il y a pas mal d'églises, c'est très traditionnel maintenant. Les gens vont le dimanche. Parce que le dimanche matin, on va prier Dieu.
Et
le reste de la semaine, on fait n'importe quoi. Donc Jésus ici va nous parler de différentes choses. Et si on veut les comprendre, il faut bien voir ça. D'abord, il faut comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un dit « je vais prier, je lis ma Bible » que forcément il est né de nouveau. Donc Jésus ici va s'adresser aussi à des gens nés de nouveau. Et il va parler d'une certaine catégorie. Donc vous voyez, quand vous observez quelqu'un qui pour un temps aurait marché avec le Seigneur et qui retourne dans le péché, il faut d'abord vous poser la question, est-ce que cette personne était vraiment née de nouveau? D'accord, bien faire la différence entre le sympathisant
et
celui qui est vraiment né de nouveau.
Parce
que je vous dis, il y a beaucoup de confusion.
Si
vous allez au Congo, vous allez en voir encore plus de confusion.
Tout
le monde se dit protestant là-bas. Mais un bon nombre viennent le dimanche dans l'église et le lundi matin vous font des histoires de corruption. C'est le sport national là-bas. Et vous voyez, donc ça prouve que les gens ne sont pas nés de nouveau, ils ne portent pas les fruits. Maintenant, parmi ces personnes que vous pouvez observer et qui retournent dans le monde, vous pouvez trouver des gens qui sont vraiment nés de nouveau, mais qui rétrogradent. Alors, le rétrograde, il est dans une position très inconfortable.
Donc,
il est vraiment né de nouveau. Il a vraiment marché avec le Seigneur selon les critères bibliques. Et au bout d'un moment, pour différentes raisons, des tentations, de sa propre chair, ou parfois des attaques sataniques par rapport à sa destinée, il va se retrouver hors piste. Il n'est plus sur la route de la chrétienté, c'est-à-dire vraiment de marcher de tout son cœur avec le Seigneur. Si vous interrogez des rétrogrades, ils sont très inconfortables quand vous leur parlez du Seigneur. Parce qu'ils sont nés de nouveau, mais ils sont dans le péché. Et quand vous leur parlez, ils vous diront, mais tu sais, moi, le soir, quand il n'y a pas de bruit dans la maison, je prie encore. Parce que le rétrograde, il n'a pas renié Jésus.
Il
faut bien faire la différence. Nous verrons ce que c'est que de renier Jésus. Celui qui est rétrograde, la grande majorité du temps, s'il est né de nouveau, donc, te dira qu'il a foi en Jésus, il sait que Jésus est le Sauveur. Mais il a un problème pour tenir sa vie dans la sainteté. Et ça, c'est son problème. C'est de tenir sa chair. Et souvent, il a rétrogradé parce qu'il a pris une. Des fois, c'est juste une décision dans sa vie. Par exemple, des gens qui se marient avec des inconvertis, ça c'est courant, ça c'est classique. Ils se précipitent dans un mariage avec un inconverti ou une
inconvertie.
Et quelques années plus tard, la personne rétrograde. Ça, c'est le coup classique. Ou quelqu'un qui prend un boulot, le problème, c'est que ce travail est dans une mauvaise atmosphère. Très mauvaise atmosphère. Qui amène cette personne à se retrouver dans un cercle vicieux de tentation. Vous savez, c'est très simple. Le diable sait très bien faire pour qu'une personne rétrograde. C'est très facile. Il suffit que cette personne puisse s'écarter de l'église locale. Ça, c'est tout à fait classique. Si le diable arrive à ce que cette personne soit coupée de plus en plus de l'église et de ses frères et sœurs en Christ, la personne va se sentir isolée. Elle va prier seule et au bout d'un moment, elle ne va plus prier ou rarement prier. Rarement étudier la parole de Dieu.
Donc,
elle n'est plus nourrie. Elle n'est plus nourrie, en tout cas correctement. Ce qui fait que cette personne, au bout d'un certain temps, est complètement, est dans un coma spirituel, si vous préférez. Si vous n'êtes pas régulièrement renouvelé de la nourriture de la parole, de la présence de Dieu dans vos vies, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Eh bien, vous êtes faible. Et rappelez-vous, nous ne sommes pas du monde. Mais nous sommes dans le monde. Et c'est très classique. Le diable utilise très facilement ce genre de truc. Et il y a des gens parfois qui prennent un boulot et ils vont dire, oh, gloire à Dieu, Steve. J'ai trouvé un bien meilleur boulot. Puis Steve commence à poser des questions et il s'aperçoit que la personne ne sera jamais à l'église le dimanche matin. Quelle bénédiction. Vous voyez, ça c'est un piège tout simple. Des fois, il y a des choses simples en se disant, oui, mais tu comprends, bah, j'irai la semaine, Steve. Je vais y aller la semaine.
Et puis,
je vais parler à mon patron et je pense que d'ici 6 mois, je pourrais y aller un dimanche par mois.
Il y a des gens qui font ça
et vous allez les voir, ils vont chuter. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas alimentés régulièrement par la parole de Dieu. Ils ne sont plus avec leurs frères et sœurs pour louer et adorer Dieu. Donc la vie de Dieu, c'est vrai, ils sont nés de nouveau. Mais tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne seule. En tout cas, une vie chrétienne épanouie, ce n'est pas possible. Car la Bible nous dit dans Ephésiens 4 que Dieu a donné les ministères pour l'édification, la construction du corps de Christ. Pour qu'on ne soit plus des enfants flottants emmenés à tout vent de doctrine. Pour qu'en fait on puisse grandir spirituellement, être fort. Et quand quelqu'un n'est pas soumis à l'onction des ministères, entre autres à l'onction pastorale, petit à petit elle s'étrangle spirituellement et elle commence à sécher, cette personne, spirituellement parlant. Et au bout d'un moment elle rétrograde, donc elle va être faible spirituellement, tellement faible spirituellement que les moindres tentations, les moindres compromis à faire, ouf, la personne tombe dedans. Et ça commence par être un compromis, tomber dans une tentation. Et comme il n'y a plus de communion fraternelle avec des frères et sœurs, ou rarement, trop rarement,
et
bien la personne a du mal à trouver des conseils. Et puis comme petit à petit il y a d'autres frères et sœurs qui savent que cette personne est tombée dans le péché, bien elle-même évite les frères et sœurs parce qu'elle a peur du regard des autres. Et le diable a réussi son coup, isoler la personne de l'église, du corps de Christ. Une brebis, vous savez, c'est comme dans un troupeau. S'il y a une brebis qui commence à s'écarter du troupeau et que personne s'en aperçoit, le moindre prédateur qui est dans le coin va manger la brebis. Ça sera un loup, ça sera n'importe quelle bestiole qui va venir manger la brebis. Et si jamais par exemple la brebis tombe dans un trou, elle ne pourra pas s'en sortir toute seule. Les animaux qui sont en troupeau, ils se protègent les uns les autres. Par exemple, quand vous regardez des reportages sur le Serengeti et tous les trucs qu'il y a en Tanzanie, tous les troupeaux qui circulent en Tanzanie, vous voyez tous ces animaux qui défilent, qui migrent d'un endroit à un autre. Ceux qui n'arrivent pas à faire le voyage, c'est toujours ceux qui commencent à s'écarter du troupeau parce qu'ils traversent des rivières et dans les rivières il y a des crocodiles et les crocodiles sont prêts à veiller qui est-ce qu'ils vont attraper. Et après dans la savane il y a les lions. Et les lions ne vont jamais s'attaquer à 10 animaux en même temps. Ils attendent qu'il y en ait un qui s'écarte légèrement du troupeau. Et c'est là où ils savent que l'animal est vulnérable. C'est la même chose avec les chrétiens. Quand nous sommes unis ensemble, et que nous marchons dans la parole et dans la présence de Dieu, c'est très difficile. Parce que nous veillons les uns sur les autres. J'ai pas dit nous nous surveillons les uns les autres. J'ai dit nous veillons les uns les autres.
Ce
n'est pas la même chose. Tu veilles sur ton frère. Quand tu vois que ton frère commence à s'écarter un peu, tu le prends par l'épaule et tu dis mon frère, fais attention. Fais très attention.
Vous
voyez, ça c'est notre rôle. Parce que nous nous voyons souvent, parce que nous prions ensemble, parce que nous nous connaissons. Donc c'est assez simple.
Vous
voyez, mais quand quelqu'un est là et s'écarte du troupeau et qu'il veut se couper des autres, il est en danger. Ça c'est le rétrograde. Le rétrograde ne sera pas effacé du livre de vie. Pourquoi? Parce qu'il a la foi en Jésus. Celui qui sera effacé du livre de vie, c'est celui qui renie Jésus. On va expliquer ça dans quelques minutes. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui va perdre sa récompense et quelqu'un qui va renier Jésus, ce qui est très rare, il faut le dire, pour des gens qui sont nés de nouveau et qui peuvent être dans des conditions que nous allons étudier qui sont très rares de perdre leur salut. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas cela. D'abord, regardons la récompense. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, Paul nous parle des récompenses. Et là, il nous prévient. Là, il parle à des chrétiens nés de nouveau. Et verset 10 d'un Corinthiens 3, il est dit, 1 Corinthiens 3, 10, il est dit, « Selon la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. » Mais regardez bien. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est-à-dire, chacun, c'est-à-dire, c'est notre responsabilité individuelle. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement, à savoir celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ok. Donc, on sait ça. Le fondement Jésus, ça veut dire né de nouveau. Né de nouveau. Si quelqu'un bâtit, regardez bien, maintenant, c'est bâtir dessus, sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Verset 13, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Il recevra donc une récompense. C'est ce que le verset 14 nous dit. Ça veut dire, une récompense, c'est quelque chose que tu gagnes. Regardez le verset 15 maintenant. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Regardez bien, il sera sauvé parce qu'il est né de nouveau, mais comme au travers du feu. Donc, ce passage nous enseigne la chose suivante qui est claire dans la Bible. Ce passage nous parle clairement que la fondation, c'est Christ, c'est-à-dire la nouvelle naissance. Maintenant, depuis le jour où tu es né de nouveau, tu vas construire ta vie. Dieu a une destinée pour toi, une volonté particulière donc. Qui ne l'a pas pour moi, qui ne l'a pas pour Steve, et chacun de nous, nous avons une destinée. C'est-à-dire des plans que Dieu a prévus d'avance pour nous, des œuvres qu'il a mis devant nous, des choses qu'il veut qu'on pratique. Et il y a aussi le degré où tu vas pratiquer la parole de Dieu dans ta vie. Tout ça, c'est quelque chose que tu bâtis tous les jours. La façon dont tu obéis à Dieu au travers de sa parole, la façon dont tu obéis à Dieu par rapport crois à ce qu'il te montre. Tout ça, c'est bâtir chaque jour. Et il y a un jour, ça se passera, nous le verrons, pendant la tribulation, où les païens sont restés sur la terre et nous, l'Église, on sera enlevé au ciel. Pendant ces 7 ans, nous passerons devant ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Et Dieu mettra le feu à nos œuvres, entre guillemets. Ce qui restera, c'est ce que tu auras fait selon Dieu. Et c'est de là où dépendra ta récompense. On en parlera un peu plus tard, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais le rétrograde, lui, il va justement verset 15. Mais pour lui, voilà, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Vous voyez, perdre sa récompense. Pas son salut, sa récompense. Ce n'est pas la même chose.
Donc
c'est la récompense, pas le salut.
Et
la récompense, ce sera les positions que nous aurons dans le royaume futur.
Pour
l'éternité. Donc il est très important que tu comprennes la différence entre eux. Perdre le salut et perdre la récompense. Lorsque Jésus parle d'effacer dans Apocalypse, d'effacer les noms, son nom dans le livre de vie, là on ne parle pas de récompense. Mais là on parle du salut. Donc on va maintenant voir dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dit, verset 5, ainsi le vainqueur se revêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges.
Kandi sinzosibanganya izina giwe mu gitabo cy'ubugingo namba kandi nzokwatura izina giwe mbere ya data n'imbere y'abamareka biwe.
Alors, on va regarder un petit peu à propos de cet aspect de confesser.
Reka turabike ikintu rero ngo cyo kwatura.
Confesser Jésus qui nous confesse devant le Père.
Kwatura ngo Yesu ngo azokwatura izina giwe umuntu imbere ya data.
Et on va regarder un passage dans Matthieu chapitre 10 verset 32 et 33. Matthieu chapitre 10 verset 32 et verset 33, il est dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, c'est-à-dire sur la terre, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, le Père qui est au ciel,
au troisième ciel.
Donc regardez bien ici cet aspect, quiconque, on revient verset 32 s'il vous plaît, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, c'est-à-dire au troisième ciel. Maintenant verset 33, regardez bien. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc vous voyez, il y a deux aspects ici. Il y a l'aspect de confesser Jésus. Confesser, ça veut dire évidemment se repentir, accepter Jésus comme sauveur personnel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc là, on parle bien de confesser Christ. Ce qui va produire bien sûr le salut. Mais aussi, vous voyez, en opposition, verset 33, c'est renier Jésus. Devant les hommes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit bien qu'il reniera aussi la personne qui l'a renié sur la terre devant son Père. On va essayer d'y aller étape après étape. Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. D'abord, renier, ça veut dire quoi? Ça veut dire rejeter délibérément, volontairement. Donc c'est vraiment un rejet volontaire qu'on appelle délibéré. Alors, il y a deux types de personnes qui peuvent renier Jésus.
Hari abantu rero bo buryo bubiri bashobora kwihakana Yesu.
Les inconvertis renient Jésus.
Abadakijijwe baramwihakana ibyo biraza.
C'est la première catégorie de personnes.
Nibo ba mbere bihakana Yesu.
Les inconvertis refusent Jésus-Christ.
Abadakijijwe baranka Yesu.
Refusent les conditions spirituelles du royaume de Dieu pour être sauvés.
Baranka ibisabwa n'ubwami bw'Imana kugira ngo bakizwe.
C'est le premier type de personnes que l'on trouve très souvent sur la terre.
Uwo n'umugwi wa mbere w'abantu tubona hano ku isi.
Des gens qui vous diront, moi ton histoire de Jésus ça ne m'intéresse pas.
Ashobora kukubwira ati ibyo bintu bya Yesu uri kuranzanira jewe
je ne suis pas croyant.
Jewe si ibyo bintu sinabyizera
Jésus. Vos histoires ne m'intéressent pas.
Ibyo bintu byanyu nkurira
aho. Ce Jésus là m'intéresse pas.
Uwo Yesu wanyu rabyitwara
aha. Ça c'est un type de personne qui renie Jésus.
Uwo n'umugwi wa mbere w'abantu bihakana Yesu.
Revenons rapidement à l'Apocalypse.
Reka tugaruke gato mu byahishuwe.
Jésus dit bien.
Yesu aravuga.
Celui qui vaincra, qui marchera dans ses convictions, sa foi jusqu'au bout sans renier Jésus, sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie.
Kumurongo gatanu ngunesha azokwambikwa atyo impuzu zera kandi sinzosibanganya izina giwe mu gitabo
cyo. La personne qui va renier Jésus jusqu'à son dernier jour sur la terre.
Umuntu azokwihakana Yesu gushaka ku munsi wa nyuma wo mu buzima bw'iwe hano ku isi.
Jésus efface son nom.
Yesu afuta izina giwe.
On va parler du livre de vie.
Turaza kuvuga iby'igitabo cy'ubugingo.
Donc la première catégorie de personnes qui renient Jésus.
Umugwa abantu ba mbere bihakana Yesu.
Ce sont des gens qui n'ont jamais accepté le Seigneur.
N'abantu batigeze bakira Yesu.
Délibérément rejettent.
Chanke ba nganka bavyishaka
bahisemo. Le message et le nom, le seul nom qui a été donné sur la terre et dans le ciel par lequel nous puissions être sauvés.
Maze bakanka ubutumwa cyangwa izina twahawe risumba yandi mazina twahawe cyo gukirizwa mwakwisi.
Ces gens-là sont effacés du livre de Dieu.
Abo bantu bagakugwa mu gitabo cy'Imana.
Maintenant, une autre catégorie de personnes.
Undi mugwi w'abantu.
Qui sont beaucoup beaucoup plus rares.
Ushikaga.
Je dirais même extrêmement rares.
Ni ibintu novuga bibaho gake cyane.
Ce sont des personnes.
N'abantu.
Qui seraient nés de nouveau.
Boba baravutse ubwa kabiri.
Et qui, pour différentes raisons, vont renier Jésus.
2 Timothée 2,
versets 11
à 13.
Oui, il faut faire vraiment attention à cet aspect-là, parce qu'il y a beaucoup de confusion. D'abord, quand on parle de salut, il faut être sûr qu'une personne est bien sauvée, née de nouveau. La plupart des rétrogrades que vous rencontrerez, ils n'ont pas renié Jésus. Mais ils perdent leur récompense. Parce qu'ils ne vivent pas à la gloire du Seigneur.
Et
c'est pas du tout la même chose. Il faut bien comprendre la différence. Il y a des sympathisants qui n'ont pas fait, qui ont fait des conversions émotionnelles. Des gens qui sont intéressés par les choses de Dieu parce que d'un seul coup ils vont voir une guérison. Et pour eux, voir une guérison, c'est formidable. Comme les foules, grandes foules qui suivaient Jésus, parce qu'elles voyaient les miracles qu'il opérait sur les malades. Mais
ce
n'est pas pour ça que dans cette foule-là,
tous
les gens qui suivaient Jésus étaient vraiment des gens qui avaient foi dans le Fils de Dieu. Parce qu'un bon nombre de ces gens-là, c'est ceux qui ont crié « Crucifie-le ».
Vous
voyez, donc il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas parce que quelqu'un est intéressé par les choses de Dieu qu'il est né de nouveau. Je vous alerte parce qu'on rencontre beaucoup de ces gens-là.
Mais
sympathisants. Les gens qui aiment bien entendre parler des choses de Dieu. Mais qui courent en enfer. Tristement. Ces gens-là, on peut les aider en leur disant, tu sais, tu n'es pas né de nouveau, il y a vraiment une expérience que tu dois faire miraculeuse.
Et
certains viennent à Jésus au bout d'un certain temps. Mais d'autres partent sans Jésus. Vous pouvez les inviter à un séminaire, ils viendront au séminaire. Vous pouvez les inviter à droite, à gauche, ils viendront de temps en temps. mais leur vie n'a jamais été transformée. Ils n'ont pas la foi du salut. Parce que leur cœur n'est pas un cœur qui veut croire. Ils prennent ce qui les intéresse un peu de l'évangile. Donc ces gens-là ne sont pas nés de nouveau. Donc de toute façon, ils ne rentrent pas dans la catégorie des gens, je dirais, qui, étant nés de nouveau, pourraient renier le Seigneur. Par contre, dans 2 Timothée 2, ici nous avons une affirmation de Paul. Il dit cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera.
Ngwiri jambo n'iryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe namba twihangana tuzokwimana nawe namba tuzomwihakana nawe azotwihakana.
Donc si nous le renions, lui aussi nous reniera.
Ngo ni tutamwihakana nawe ntazotwihakana.
Renier Jésus alors que tu semblais marcher avec lui ou que tu marchais vraiment avec lui, c'est un péché extrêmement grave. Là, tu peux te mettre dans des conditions de perte du salut. C'est-à-dire quelqu'un qui dit délibérément, vraiment, tous ces trucs-là, j'y ai cru, mais c'est complètement faux. Je parle de quelqu'un qui va dire ça d'une façon délibérée. Non pas parce qu'il a vécu ou il s'est fait rouler par des gens qui n'étaient pas honnêtes. Je parle vraiment qui, dans leur cœur, renie Jésus-Christ. Il y a par exemple quelqu'un qui a renié Jésus dans les évangiles. Mais lui, il l'a fait par impulsivité. Qu'est-ce qui était cet homme? C'était Pierre qui était si proche de Jésus. Et Jésus, à un moment, lui a dit à ses disciples, vous savez, je vais souffrir. Je vais mourir. Les Juifs vont me prendre. Et vous allez tous partir. Et Pierre, dans son charnélisme, impulsivité de caractère, a dit, mais de toute façon, Seigneur, tu sais, ils pourront tous partir. Moi, je suis avec toi. Moi, jamais je te renierai. Et Jésus lui a dit si. Tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante 2 fois. Et tu vas me renier 3 fois avant que le coq ne chante 2 fois. Et c'est ce qui s'est passé. Et Pierre a pleuré. Il a pleuré sur son sort. Il a vu combien il était faible par sa chair. Mais Pierre n'a pas perdu son salut à l'époque puisqu'il n'était pas encore sauvé. Et c'est clair, vous savez bien que personne n'était sauvé avant que Jésus ne ressuscite entre les morts. Mais ça, c'était renier Jésus par la chair. Là, Paul s'adresse en Timothée à des gens qui sont nés de nouveau et qui pourraient renier Jésus. Non pas sous la contrainte. Parce que vous savez, au début, dans l'église du 1er siècle, il y a des gens qui ont été mis à mort et on faisait une chose. On jouait avec eux, on les torturait. On les mettait devant des groupes de gens. Et on leur disait, voilà, soit tu dis que tu renies Jésus, soit tu vois, dans une minute, tu es mort. On va te massacrer devant les autres. Et il y a des gens qui ont craqué sentimentalement par rapport à ça. Et ces gens-là n'ont pas renié Jésus tel que la Bible le dit.
ariko ntibihakanye Yesu nkuko bibiri vuga kwihakana Yesu.
Bien comprendre la différence.
No kumva ubudasa.
Quand on parle de renier, c'est quelque chose qui est délibéré.
Bavuze kwihakana ni kintu umuntu akoze.
Que tu choisis de faire.
Yigombera ahisemwo wenyene gukora.
De façon délibérée volontairement.
Mu buryo bwiwe ashaka abyemeze.
Sans bien sûr que tu sois menacé dans ta vie.
Atana kimwe kimuteye ubwoba, atana kimwe kimugoye.
Mais tu choisis un jour de retourner délibérément en sachant ce que tu fais.
Agahitamwo
vers le diable.
Rekanisubirire kwa Satani azivye ariko arakora.
Et tu dis je ne crois plus en ce Jésus.
Akavuga ati ivyo vya Yesu just nk'ivyemera.
Ça c'est vraiment renier Jésus dans les conditions bibliques.
Uko no kwihakana Yesu nkuko Bibiliya ibivuga.
Revenons à Apocalypse.
Reka tugaruke ku vya Yesu.
Jésus dit
Yesu aravuze
que en fait il n'effacera pas son nom au verset 5 du livre de vie.
Ngo sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba.
Alors, en regardant un petit peu de où est-ce que la Bible parle du livre ou du livre de vie, c'est très intéressant. On va trouver cette première expression dans Exode chapitre 32, verset 32. Exode 32:32. Et il dit, pardonne maintenant leurs péchés. C'était le peuple d'Israël qui avait péché. C'est Moïse qui dit ça à Dieu. Il dit, sinon, efface-moi de ton livre que tu as
écrit.
Le peuple d'Israël avait péché dans l'idolâtrie. Dieu voulait juger cette nation. Et Moïse est venu devant Dieu et a intercédé pour ce peuple. Pour éviter le jugement sur ce peuple. Pour que ce peuple ne soit pas jugé par Dieu parce que ce peuple avait péché. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Moïse dit pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Mais comment est-ce que Moïse savait que Dieu avait un livre où il avait écrit des noms? Vous vous êtes posé la question?
Mais
moi je me le suis posé. Je me suis dit, mais Seigneur, comment est-ce que Moïse savait qu'il y avait un livre dans lequel il y avait son nom qui était écrit? Et qu'il pouvait effacer. La réponse est simple. Si vous lisez l'Exode, vous verrez que avant ce passage-là, Moïse avait passé 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Il a été visité par la gloire de Dieu. Il a eu des visions sur visions sur visions. Des visions de Dieu, des visions du tabernacle, parce qu'il va faire le tabernacle comme ça lui a été montré, comme Dieu lui avait montré. Donc, il avait vu quelque chose. Tous les ustensiles du tabernacle, Moïse les avait vus prophétiquement en vision. Mais pas seulement ça. Apparemment, et c'est clair dans ce passage, Moïse avait vu le livre de vie. Alors ça, c'est le premier personnage qui va nous en parler dans la Bible. Il y a un deuxième personnage qui va nous en parler. Et après, nous verrons un troisième personnage, puis un quatrième personnage. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va relier ces personnages ensemble par quelque chose qu'ils ont fait de commun. Le deuxième personnage, c'est le roi David. Et le roi David, dans le psaume 69, verset 29, va nous donner quelque chose d'étonnant. 69, ça c'est 69-30, un peu plus haut. Le verset du dessus, merci. On va lire juste encore le contexte, verset 28, merci. Alors, David était très fâché contre les méchants. Et il va dire quelque chose. Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'il n'ait point de part à ta miséricorde. Verset 28 ou 29, peu importe. Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes.
basibanganwe mu gitabo cy'ubugingo ntibaze bandikanwe n'abagororotse.
Deuxième personnage qui nous parle d'un livre où il y a des noms écrits.
Wa kabira tubwiye by'igitabo cyanditswemo amazina.
David.
David.
David était roi mais David était aussi prophète.
David yari umwami ariko kandi yari umuvugishwa.
Et ce qui est très intéressant chez David, c'est que David va avoir une vision.
Ikiryoshye rero kwa David nuko nawe hagaze igihe akaronka kwerekwa.
On verra de quoi dans quelques minutes.
Turaza kubona ibyo ari byo mu mwami.
Troisième personnage qui va nous parler d'un livre qu'il a vu.
Wa gatatu tugira tubone yabonye igitabo.
C'est Daniel au chapitre 12.
Ni Daniel mu gice cy'12.
Daniel chapitre 12 verset 1.
Umurongo wa mbere.
Et là on va voir encore.
Aha naho twongera kubona.
Et il est dit quelque chose d'étonnant.
Ikintu gitangaje.
En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés.
Ngo maze icyo gihe Mikayeli azohaguruka niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu kandi hazoba igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uheregeye amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe ariko icyo gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka.
Daniel prophète.
Umuvugishwa Daniel.
Si vous lisez le livre de Daniel, vous allez voir qu'il a reçu vision sur vision sur vision.
Uri kurasoma igitabo ciwe usanga yeretswe ibintu.
Donc là, nous avons trois personnages dans l'Ancien Testament. Un, Moïse, qui a fait une expérience absolument phénoménale, unique dans l'histoire, je dirais, de l'humanité.
Quarante jours et quarante nuits
visités dans la présence de Dieu.
Où
Dieu lui donne des visions de lui, du trône, de sa gloire. Il va voir plein de choses. Dieu va lui donner des visions sur ce qu'il va construire. Et Moïse nous parle d'un livre. Où il est inscrit lui aussi. Ensuite David
nawe,
qui était roi et prophète,
yari umwami akongera kaba umuvugishwa,
qui nous rapporte des visions parce que David a eu des visions du Seigneur, du trône de Dieu.
Nawe yahora yerekwa akabona intebe y'inganji y'Imana.
Si vous étudiez, il y a un moment où il parle qu'il y a de la fumée qui sort des narines de Dieu, etc., etc. Il nous parle du trône de Dieu.
Uri kurasoma mazaburi iwe hari aho ubona yandika ngo yarabonye ngo impwemu ziva mu mazuru y'Imana ku ntebe y'inganji y'Imana ibintu byinshi nk'ivyo.
De l'onction de Dieu.
Avuga ibya mavuta y'Imana yabonye.
Et il nous parle du livre de vie.
Hanyuma atubwira iby'igitabo cy'ubugingo.
Ce sont des livres inspirés, frères et sœurs.
Ibi ni bitabo rega byahumetswe n'Imana bene data.
C'est pas parce qu'un jour David était énervé contre les méchants qu'il a dit efface-les du livre de vie. Ah, il doit y avoir quelque chose dans le ciel là.
Ni bitabo byahumetswe si bitabo aho wasanga David kubera ko yavyusa ashavuye ngo basiribanganye mu gitabo cy'ubugingo.
Non, il savait parce qu'il a vu quelque chose.
Yarabizi ko ico kintu gihari.
Ensuite Daniel.
Hanyuma Daniel.
Là c'est la fin des temps.
Et
ça, c'est le peuple d'Israël à la fin de la tribulation.
Et
là, cette révélation qu'il y a des noms inscrits dans le livre. Et c'est ces gens-là qui sont au bénéfice de la résurrection. Et puis, maintenant, le quatrième qui nous parle du livre de vie,
et
bien, c'est Jean. Jean dans l'Apocalypse. Jean va nous en parler à plusieurs reprises. Jean chapitre 13, verset 8.
Jean 13,
verset 8. Il est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. 13, 8.
Ni ibyahishuro Yohana 13 murongo 8 niho batubwira ngo kandi ababa ku isi bose bazogisenga umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe ku kimazi uhereye kure ku kuremwa ku isi.
Ensuite chapitre 17 verset 8. 17 verset 8.
17 murongo 8.
La bête que tu as vue était et elle n'est plus, elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Et les habitants de la terre, dont le nom n'a pas été inscrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront à la vue de la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra.
igikoko ubonye cyariho kandi n'ikikiriho kandi kigira kiduge kivi kuzimu kije kuranduka kandi ababa ku isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa ku isi bazotangara babonye ico gikoko yuko cyariho kandi kitakiriho kandi kitazoboneka.
Chapitre 20 à partir du verset 11. Là, c'est très intéressant, c'est le jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et ils ne furent plus trouvés de place pour eux. Verset 12. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Nous expliquerons toutes ces expressions bien plus tard. Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc on va lire en Kirundi le verset 12 et le verset 15, s'il vous plaît.
Et quand on met Chumunaka, il y a un Kirundi, mbona bapfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe ibitabo birazingurugwa kandi ikindi gitabo kirazingurugwa nico gitabo c'ubugingo abapfuye bacigwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze 15 ngo kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri ica gitabo c'ubugingo aterwa muri ico kiyaga ca kumuriro.
Alors, dernier passage, on trouve le livre où il y a des noms qui ont été inscrits, c'est Apocalypse 21, verset
27.
Il est dit, il n'entrera, 21-27, il n'entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, c'est entrer dans la Jérusalem céleste, dans la présence parfaite de Dieu, quand tout sera refait, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau.
Ngo kandi kuri wo ntaho kuri wo kuri uwo mugwa ntaho hazogera ikintu gihumanye canke ukora ibizira kabesha atarabanditswe mu gitabo c'ubugingo ca wa mwagazi w'intama.
Donc c'est clair qu'il y a un livre dans le ciel.
Biboneka rero ko hari igitabo mwijuru
où les noms des hommes sont écrits.
Hari amazina y'abantu yanditswemo.
Il y a des livres où il y a les œuvres des hommes qui ne suivent pas Christ ou qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus aussi, dont le nom est écrit, dont les œuvres sont écrites. C'est ce qui amènera leur condamnation éternelle. Alors, vous vous rappelez quand on a lu Apocalypse 3, Jésus parle d'effacer des noms. Alors, ce qu'on peut plus ou moins déduire de tous ces textes, parce qu'il faut faire attention dans les interprétations, parce qu'il y a des gens qui dérapent très rapidement. Tous les hommes que Dieu crée, au départ, sont destinés à la vie éternelle. Je ne défendrai jamais une théologie de ce qu'on appelle la prédestination.
Je vais prendre
le mot français, c'est bon.
Je vais expliquer.
Alors, prédestination, ça veut dire quoi ?
Prédestination,
en fait, il y a des gens qui enseignent. Entre autres, ça a été, je crois, Calvin. Les églises calvinistes qui enseignaient ça. Ils ont enseigné qu'il y avait des hommes qui étaient prédestinés au salut. Et des hommes qui étaient prédestinés à l'enfer. Donc quand on prêchait l'évangile, si tu avais la chance de croire, tu pouvais être sauvé.
Et
si tu n'étais pas un fameux chanceux de pouvoir croire, pas de chance pour toi, tu serais destiné pour l'enfer. Et il y a des choses comme ça qui ont été prêchées dans certaines églises où en fait on te disait simplement, voilà le message de l'évangile, si tu crois, tu seras sauvé. Parce que Dieu t'a prédestiné à être sauvé. Maintenant, si tu n'arrives pas à croire, tant pis pour toi. Hein. Pas de chance. Tu ne fais pas partie de ceux que Dieu a choisis. Alors ça, c'est très dangereux.
Et
il y en a qui ont pris certaines portions de l'Écriture
pour
dire non, il y a des gens que Dieu a destinés au salut,
d'autres
que Dieu n'a pas destiné au salut. Mais moi, je ne peux pas défendre ça.
Et
je me refuse à défendre ce genre de doctrine.
Pourquoi ?
Parce que la Bible nous dit bien que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Jésus est mort pour les péchés de tous les hommes. Christ est mort pour nos péchés. S'il y avait prédestination, c'est-à-dire que Dieu aurait choisi à l'avance des êtres humains qu'il allait sauver et d'autres qu'il allait rejeter, ça voudrait dire d'abord que Dieu est injuste. Et ça voudrait dire que Jésus est mort seulement pour ceux qui sont prédestinés au salut. Et une telle théologie ne peut pas être soutenue par la Bible. Sinon, ça voudrait dire que Dieu est partial, qui fait ce qu'on appelle acception de personnes, c'est-à-dire qui choisit certaines personnes et pas d'autres, au niveau du salut. Maintenant, c'est vrai que Dieu a des appels spécifiques et des destinées spécifiques pour différentes personnes. Ça, on est d'accord.
Mais
au niveau du salut, chaque être humain a la capacité de croire le message du salut. Chaque être humain est créé de la même façon, esprit, âme et corps. Chaque être humain est prédestiné à l'avance.
Pour être sauvé.
Parce que Jésus est mort pour tous. Maintenant, un certain nombre d'êtres humains renient Jésus. Ne veulent jamais accepter Jésus. Dans toute leur vie, du premier jour où ils naissent jusqu'au dernier jour. Ils ne cherchent pas Dieu. Ils sont comme ce que Paul explique au début de l'épître aux Romains. Des gens qui voient toute la création, qui adorent la créature plutôt que le créateur, qui ne cherchent pas Dieu. Et c'est le péché que Dieu reprochera à tous ces gens-là au jour du jugement dernier. Le péché qui sera reproché à tous les inconvertis, c'est de ne pas avoir accepté le plan du salut dans leur vie. En d'autres termes, d'avoir renié Jésus. C'est-à-dire délibérément de dire tout ça c'est faux. Alors que Jésus est Dieu, qu'il est Dieu le Fils, qui est venu pour nous sauver. Chaque homme a un choix, est placé devant un choix. Certains diraient, mais oui, mais s'ils n'ont personne pour leur parler, Jésus se révélera à une personne qui a soif. Il y a des témoignages les plus phénoménaux. Des gens qui ont été dans les endroits les plus reculés de la terre, qui habitaient dans les endroits où Jésus s'est révélé. Même dans les milieux musulmans les pires aujourd'hui, où il y a de la persécution contre les christianistes jusqu'au bout, et il y a des gens qui reçoivent Jésus. Même pendant les temps du communisme, là où on essayait d'éradiquer tout ce qui peut parler de Dieu, il y a des gens qui ont reçu Jésus. En Chine, il y a des gens qui ont reçu Jésus. On
n'en
entend pas beaucoup parler parce que c'est discret, parce qu'ils ne peuvent pas exercer leur foi librement. En Iran, aujourd'hui même, j'ai encore entendu quelque chose hier d'une femme qui prêche l'évangile, qui va et qui va régulièrement en Iran pour aller prêcher.
Et
ils se réunissent dans des caves, dans des endroits, dans des grottes, là où il y a la soif de Dieu. Il y a la révélation de Dieu. Donc, l'homme qui cherche Dieu va trouver Dieu. Ça, c'est obligatoire. Jésus a pourvu à tout ce qu'il fallait pour que justement les hommes puissent être sauvés. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'apparemment, moi, c'est ce que je comprends quand je lis les textes, À chaque fois qu'un être humain naît sur cette terre,
son
nom est inscrit d'avance dans le livre de vie. Si cette personne meurt en ayant renié Jésus, c'est-à-dire en jamais accepté Jésus, son nom est effacé. Si cette personne a marché avec Dieu, a reçu Jésus comme sauveur personnel et qu'elle a renié Jésus, ce qui est très très rare, à ce moment-là le Seigneur l'efface du livre de vie. Et à la fin de l'histoire de l'humanité,
et
bien à la fin de l'histoire de l'humanité, le jour du jugement, les livres seront ouverts. Et ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie, dont le nom aura été effacé, eh bien, il sera jeté dans la seconde mort, dans le lac de feu et de soufre. Quel privilège d'avoir accepté Jésus. Amen. Vous savez, goûtez à votre salut. Goûtez à votre salut et au privilège du salut. Beaucoup de gens n'imaginent même pas, je vous assure, c'est quand vous allez quitter votre corps que vous allez aller au troisième ciel.
Merci
1 million de fois. C'est pour ça que sur cette terre, apprends à le servir. Sanctifie-toi. Va, fais tout ce que tu peux pour marcher avec lui. Porte des fruits. Va parler à ton voisin de Jésus.
Prie
pour la personne qui est en difficulté. Celui qui n'est pas sauvé. Ton frère ou ta soeur qui a des difficultés dans la vie. Tout ça, ce sont des fruits que tu es en train de préparer. Et que tu portes. Et avec lesquels tu auras une récompense. Et ce jour-là, tu seras heureux de te dire, Seigneur, merci. Parce que j'ai pratiqué ta parole. J'ai essayé de faire de mon mieux de ce côté-là. J'ai essayé de faire vraiment ce que tu me demandais de faire quand tu m'as parlé à propos de ça.
Vous
savez, des fois, on est un peu découragé dans la vie chrétienne. Tu es là, jour après jour, à te débattre. Mais tu ne réalises pas. Quand tu fais les œuvres de ton Père,
qu'il
y a une récompense éternelle qui
t'attend.
Souvent, on ne réalise pas parce qu'on ne le voit pas. On ne voit pas le compte en banque de nos œuvres spirituelles, de nos œuvres selon Dieu, c'est ça, qui est en train d'être crédité régulièrement quand on fait les choses pour le Seigneur. On est là, on est sur la terre, on a l'opposition parce que tu as parlé de quelqu'un à Jésus, d'un seul coup, tu es persécuté au boulot. Ta famille te fait des histoires, comme par hasard. Tu as des choses qui te tournent autour, tu as des oppositions.
Tu
es découragé. Parce que tu n'as pas compris, c'est que tu es en train de porter des fruits pour l'éternité. Pour ta récompense. Pour ta récompense. Tu as parlé à un frère ou une sœur qui s'écartait du Seigneur.
Tu es
en train de l'aider à revenir dans sa récompense.
Tu as
parlé à quelqu'un qui s'est donné à Jésus. Cette personne, tu la rencontreras dans l'éternité. Catherine Kuhlmann a dit une chose. Elle a dit, c'est lorsque nous serons avec lui que nous réaliserons combien nous sommes passés à côté des choses les plus grandes dans ce monde. Ne passe pas à côté des choses extraordinaires que Dieu a pour toi. Mais Jésus a été clair. Tu dois laisser ta vie derrière toi. Tu dois porter ta croix, c'est-à-dire faire ce qu'il te demande, quel qu'en soit le prix.
Et
il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent de Dieu pour ce qu'ils peuvent recevoir de lui. Très peu de gens qui veulent de Dieu et qui savent qu'il y a un prix à payer pour le servir et voir sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.